Gloire à Dieu, nous nous réjouissons de nous retrouver autour de notre Père pour écouter sa voix à travers sa parole. Nous sommes dans notre série Béréen l'explorateur qui a pour objectif la lecture de toute la Bible avec certaines explications pour nous aider nous-mêmes à lire la Bible du début à la fin, mais aussi pour permettre aux uns aux autres de recevoir des éclairages concernant cette lecture de la Bible, et aussi pour recevoir la parole de Dieu pour chaque jour. Nous en sommes au psaume 109. Psaume 109.
Au chef des chantres de David, ne te tais point contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Place-le.
Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et quand on le jugera,
déclaré coupable.
Et que sa prière
passe pour un péché.
Que ses enfants prennent
large.
Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds.
Du pain, loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est point souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent.
Voilà, gloire à Dieu. Nous attaquons ce premier psaume 109 qui est ce qu'on appelle psaume d'imprécation. Ça veut dire que la personne qui écrit en appel à l'action divine pour frapper les méchants, pour frapper les mauvais. Et souvent, il y a des personnes qui ont posé la question quand on arrivait à ce genre de psaume, parce que ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais Dieu veut sauver les humains, il veut sauver les gens, même les méchants, c'est ce qu'on sait de la parole de Dieu. Mais comment il y a de tels passages? Et je crois qu'on avait déjà répondu, mais on va encore le faire. C'est que premièrement, comme il est écrit dans Jean 1, 17, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la totale vérité sur Dieu. Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi il a dit, il y a certains exemples comme celui-ci, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un vous donne une baffe sur la joue, une joue, vous lui donnez aussi l'autre joue. Voilà. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, ainsi de suite. Voilà. Ça veut dire que Jésus est venu donner la révélation totale sur Dieu. Il y a eu une première partie qui était centrée sur la loi et sur la justice. Il ne faut pas faire le mal, sinon on est puni. Maintenant, la deuxième partie, elle complète en ce qui concerne la nature de Dieu, en parlant de l'amour de Dieu et de la volonté de Dieu de sauver tout homme et de se singulariser par rapport à d'autres concepts par le fait que lui, il peut faire du bien aux gens mauvais. Voilà, c'est ça. Or, naturellement, on ne fait pas du bien aux gens mauvais, mais Dieu, il montre qu'il est Dieu, il est unique, parce que lui peut faire du bien aux gens mauvais pour les amener à la repentance. Toutefois, il y a un jugement, le jugement dernier, là où il sera ferme, là où il manifestera la justice clairement. On avait dit aussi que c'est logique en tant que juste d'en appeler à l'action juste de Dieu. Lorsqu'on est dans un pays normal, on aimerait bien que les voleurs, les cambrioleurs, les meurtriers soient emprisonnés, soient sanctionnés pour qu'il y ait de l'ordre. Donc c'est logique que des gens fassent des imprécations, demandent à ce que Dieu juge. Voilà, parce que là, ce psaume parle du jugement des méchants. Donc la personne qui a écrit en appelle à Dieu pour juger les méchants. C'est aussi normal puisque même Dieu lui-même, un jour, il jugera fortement et clairement les méchants. Donc, mais on n'a pas toujours cette patience d'attendre le jugement dernier. Les gens veulent voir aussi le jugement des méchants à l'heure présente. Et il y a aussi le fait que les méchants eux-mêmes ont besoin de voir les conséquences de la méchanceté, peut-être pour se réveiller. Ils en ont besoin, parce que quand un méchant maintenant fait le mal et qu'il n'y a aucune conséquence, il risque de croire que le mal, c'est bien. Donc, quelque part, le fait que le mal attire un jugement, ça peut réveiller même le méchant. Et puis, pour finir, il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. On récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. Voilà, donc ces imprécations-là ne sont pas forcément anti-parole de Dieu. Non, ça fait partie de la parole de Dieu. Ça fait partie de la soif des justes de voir Dieu agir dans la justice, frapper les méchants. Je voudrais qu'on relise la partie de 1 à 7. À 7. À 6 plutôt, 1 à 6.
Au chef des chants.
Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et voilà. Que sa prière passe pour un péché.
Voilà. Nous voyons quand même une description grave de la méchanceté. C'est une description très, très grave. Il est écrit « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. » Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. C'est déjà un point. Deuxième point, ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Voyez, bien aimé, il y a méchant et méchant. Là, il n'est pas question de quelqu'un qui piquerait, qui passerait par un accès de colère. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment des gens mal intentionnés, des gens méchants. Voilà. Il ne s'agit pas de faire le mal par accident, par faiblesse ou bien par manque de maîtrise de soi. Non, là, il s'agit des gens qui sont mauvais, qui méditent le mal. Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il y a vraiment la mauvaise intention. Il me parle avec une langue mensongère. Le mensonge, on dit le diable, c'est le père du mensonge. Ils me font la guerre sans cause. Alors qu'il n'y a rien, on te fait la guerre. Il n'y a rien. Ce qui est grave, c'est le verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Alors même que je réponds quand même malgré tout par amour, ces gens-là continuent à se constituer en adversaires. C'est vraiment des méchants. Excusez-moi la parenthèse, mais c'est ce qui se passe avec les gens du nouvel ordre mondial. C'est des gens méchants, c'est des gens qui ne pensent qu'à faire du mal. Leur problème, c'est que les autres soient soumis comme des pions. Et si tu refuses d'être un pion, ils vont te faire du mal sans cause. Mais si c'était encore sur des chrétiens, les chrétiens vont répondre toujours par le bien. Mais les gens du monde n'ont pas cette capacité-là à répondre face à une telle méchanceté que par le bien. Ils sont obligés de se défendre et en voulant se défendre, ils vont faire des erreurs de sorte que les grands méchants vont dire « Mais c'est toi le méchant. » C'est ce qui se passe notamment avec cette histoire de Poutine où le monsieur a tout fait pour chercher la paix. Ça fait combien? Environ 20 ans qu'il cherche à ce qu'on... Il leur dit « Nous, on a dissous le pacte qui vous menaçait. » À vous aussi de dissoudre le pacte qui nous menaçait. Tout ce qu'on veut, qu'on vive tout le monde en paix. Tout ce que je veux, c'est qu'à mes frontières, il n'y ait pas d'armes contre moi. Je veux la paix. Et il y a des preuves de cela, c'est que ce monsieur-là s'est impliqué dans le commerce mondial. Il s'est impliqué dans les échanges mondiaux. Mais les autres, ils ne veulent pas de la paix. Ils veulent de la soumission. Si tu veux la paix, tu te soumets. Si tu ne te soumets pas, ça va être la bagarre. Et ils usent de toutes sortes de subterfuges, de choses secrètes, de manœuvres secrètes, d'intrigues, comme on dit, pour finalement te t'amener dans un piège. Où est le mal que chacun vive dans son coin en paix? Non, 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 non. On ne veut pas que chacun vive dans son coin en paix. On veut que tout le monde suive notre ordre. Voilà. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est ça les vrais méchants. Avec ces gens-là, tu as beau les aimer, tu vas faire tout ce que tu veux, c'est des méchants par essence. C'est des, ce qu'on appelle les familles, les grandes familles Illuminati, les grandes familles de sorciers dont fait partie les Rothschild. Eh bien, ce sont ces familles-là, depuis des générations, depuis des siècles, ils sont dans la magie avec le diable et c'est eux qui veulent que l'homme périsse. Ils veulent détruire l'homme, ils veulent dominer l'homme. Et pour le moment, une de leurs montures essentielles, c'est les États-Unis. Ils utilisent les États-Unis comme une monture pour semer le mal partout. Et donc, quand tu veux réagir, on te fait la guerre. On t'amène dans un piège et tu tombes dans le piège et c'est toi qu'on accuse comme étant l'agresseur, alors que c'est toi qui es agressé. C'est ce style de méchant-là. Pour ceux qui se documentent un peu, ils sont au courant qu'il y a des familles qui ont une sorcellerie séculière. Ça fait des siècles qu'ils sont dans la sorcellerie. Ils se transmettent depuis plus de 1000 ans. Ces gens-là sont des instruments du diable. C'est eux, c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont désignés ici. Et ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils ne font que mentir. Ils me font la guerre sans cause. Sans cause, il faut que tu sois soumis. C'est eux les colons. C'est eux qui ont éliminé tous les Indiens d'Amérique. Ils les ont éliminés. L'Amérique était peuplée d'Indiens, l'Amérique du Nord. Il n'y en a plus. Ils ont été éliminés. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Donc, ça veut dire que même quand tu veux, toi, créer une atmosphère d'amour, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent une atmosphère conflictuelle pour pouvoir te faire la guerre. Ils me rendent le mal pour le bien. Voilà. Et de la haine pour mon amour. Donc, comment, dans ce cas-là, ne pas en appeler au jugement de Dieu? Voilà, c'est, là, on ne nous parle pas d'un appel au jugement de Dieu face à une bagarre dans la rue. Non, là, il s'agit des gens qui sont profondément méchants et qui exaspèrent l'être humain. Et à un moment donné, on dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Verset 7. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. La soif du juste, c'est que le méchant soit quand même déclaré coupable, soit démontré comme coupable. Voilà. Et il y a une liste de choses dures que le psalmiste veut que ces gens-là vivent pour qu'ils comprennent c'est quoi la méchanceté. Et vous savez, ça nous rappelle ce qui s'est passé dans l'Épître aux Corinthiens quand ce garçon-là a pris la femme de son père et Paul a dit, je le livre à Satan afin que son corps soit détruit mais que son âme soit sauvée. Voilà, c'est comme si les méchants ont besoin aussi de vivre les conséquences du mal, vivre la méchanceté du mal pour réaliser que ce n'est pas bon d'abandonner tout et de laisser leur âme être sauvée. Et quand Paul dit « je livre à Satan », c'est une façon de dire « j'enlève la protection de l'Église, j'enlève la protection de la communion des enfants de Dieu, de sorte que cette personne, dans sa méchanceté, est livrée au diable qui n'aura pas de limite. Et quand le diable va le maltraiter, cette personne va se réveiller pour comprendre que le mal, c'est pas bon et peut-être son âme sera sauvée. Voilà. Finalement, nous, dans le Nouveau Testament, nous pouvons toujours réclamer la justice de Dieu, mais dans l'espoir que ça contribue, le jugement de Dieu, pardon, dans l'espoir que ça contribue quand même au salut de ceux qui sont sauvables. Alors, pour le reste, il y a des gens dont on dit qu'ils ne peuvent plus être sauvés parce qu'ils ont péché, ils ont péché contre le Saint-Esprit, mais pour ceux qui sont sauvables, ben, que le jugement de Dieu, en les frappant, les réveille pour les amener à être sauvés, même in extremis. Voilà. Mais la fin, c'est toujours une louange à Dieu. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Amen. Donc finalement, même si la personne en appelle a fait appel à des imprécations, à la fin, il reconnaît quand même que Dieu est au contrôle. Dieu reste au contrôle. Nous avons besoin de prier pour recevoir cette paix-là qui nous certifie que Dieu est au contrôle. Donc quand nous sommes dépassés par l'injustice des méchants, je nous demande de prier. Voilà, parce que si on ne prie pas, on va se mettre en colère. On va maudire. Il faut prier tout de suite. Donc quand tu sens qu'il y a comme une pression sur toi, il faut prier pour ne pas que tu tombes dans le geste de rendre le mal par le mal. Alors, il faut que nous, on rende le mal par le bien, mais ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous avons besoin, à un moment donné, quand nous sentons... Moi, je parle pour mon cas. Hein, quand je vois que tous les mensonges qui se disent sur Poutine et sur la Russie, tout ce qu'on fait aux footballeurs innocents, des gens qui jouent au football, on leur dit, ben, vous êtes disqualifiés. Tout ce qu'on fait aux Russes aujourd'hui, je dis non, mais ce n'est pas normal. Quand on voit tout ce qu'on a fait aux médecins, aux infirmiers, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, on leur a fait quitter leur travail, le travail de leur vie, quoi. Tu as envie de prendre des armes, hein, mais bon, c'est là qu'on a besoin de revenir, de dire, Seigneur, nous prions, donne-moi la paix, Seigneur, je crois que tu restes Dieu. Et dans la prière comme ça, on reçoit comme une assurance que Dieu aura le dernier mot, on peut lui faire confiance. Voilà, c'est très important. Et on a comme une vision, hein, verset 31, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Le Seigneur agira, faisons-lui confiance. Le psaume 110.
Psaume 110 de David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête.
Amen. Alors, ce psaume est un psaume messianique. On a expliqué ce que était un psaume messianique. Un psaume messianique, c'est un psaume qui parle de Jésus avant le temps. Les psaumes ont été écrits 1000 ans avant la venue de Jésus. Et pourtant, il y a des psaumes, quand on les lit, on comprend qu'il est question de Jésus. C'est ça les psaumes messianiques. Et le psaume 110 est l'un des psaumes les plus messianiques. Donc parmi les psaumes, il y en a qui sont encore fortement messianiques. Il y a le psaume 45, il y a le psaume 22, il y a le psaume 110. Ça fait partie des psaumes très, très clairs. Voilà. Par exemple, là, c'est écrit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur ». Donc, il y a l'Éternel qui parle au Seigneur. Bon, c'est compliqué. Comment l'Éternel peut parler au Seigneur? Ça nous aide à comprendre qu'il y a le Père et il y a le Fils. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ça nous rappelle les phrases du Nouveau Testament, comme quoi lorsque Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de son Père. Donc, ce psaume est très clair là-dessus, le psaume 110. Verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Verset 4, peut-être le plus important, l'Éternel l'a juré. Il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ce verset a servi grandement, non seulement au Seigneur Jésus, mais il a servi surtout au frère Paul dans l'Épître aux Hébreux pour démontrer que Jésus est supérieur à la prêtrise d'Aaron de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour être prêtre, il fallait être descendant d'Aaron. Il fallait être descendant d'Aaron. Et l'apôtre Paul explique que Jésus, lui, n'est pas prêtre selon la descendance d'Aaron, mais selon la descendance de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est un homme dont on ne dit pas l'origine ni la fin, qui apparaît dans Genèse lorsque Abraham vient se prosterner devant lui pour lui donner la dîme. Donc, vient s'humilier devant lui pour lui donner la dîme. La dîme, on la donne à quelqu'un de spirituellement avec une autorité supérieure à la nôtre. Et Abraham, en faisant cela, il a manifesté la supériorité de Melchisédek sur lui. Or, Abraham, c'est le grand-père de Lévi, le grand-père d'Aaron. Donc, si Abraham s'est prosterné, s'est humilié devant Melchisédek, finalement, tous ses enfants se sont humiliés à travers lui devant Melchisédek. Donc, la prêtrise d'Aaron, elle est inférieure à la prêtrise de Jésus, qui, elle vient de Melchisédek. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est le psaume 110 qui le dit. Nous sommes en train de lire ensemble. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et l'apôtre Paul explique dans l'Épître aux Hébreux que les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament, on les répétait tout le temps. On les répétait tout le temps parce que c'était la preuve qu'ils n'étaient pas suffisants. Parce que quelque chose de suffisant, on ne le répète plus. Alors que Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes, mais dans un sacrifice éternel. Et c'est ce que ce psaume dit, tu es sacrificateur pour toujours. Donc l'œuvre de Jésus est une œuvre éternelle. C'est pourquoi même à sa résurrection, il gardait les trous dans ses mains, les trous de son sacrifice, là où les clous sont passés, il les garde malgré le fait qu'il est ressuscité. Parce que nous, le jour où on ressuscitera, on aura un corps sans défaut. Je ne dis pas que ces trous étaient des défauts, mais on aura un corps sans marque. Notre corps sera parfait dans tout. Mais Jésus, lui, il a gardé les marques. Pourquoi? Parce qu'il est sacrificateur pour toujours. Et sacrifice en même temps, pour toujours. Et ça, c'est confirmé dans l'Épître aux Hébreux qui dit que son offrande a été donnée une fois pour toutes, pour toujours. Ça montre aussi que nous, les humains, comme étant des êtres éternels, on ne peut pas être sauvé par quelque chose de non éternel. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus a valeur éternelle. Il garde les trous éternellement. C'est comme ça, et c'est ce qu'on lui dit là. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. La prêtrise, le sacerdoce de Jésus est au-dessus du sacerdoce d'Aaron. Et c'est ce que le frère Paul démontre pour dire, puisque le sacerdoce de Jésus est au-dessus, ben, c'est ce sacerdoce-là que nous devons tous suivre. Verset 5, le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Donc, on nous promet que Jésus sera en quelque sorte vengé. En quelque sorte, on verra les conséquences du fait que c'est lui le vrai prince. C'est lui qui est le vrai roi par le jugement que subiront les nations à un moment donné dans la suite des temps. Voilà le Messie, il y a des gens qui ont intitulé ça le Messie, roi et sacrificateur. C'est ça le but de ce psaume 110. Il nous montre à l'avance le Messie en tant que roi et sacrificateur. C'est un psaume à connaître, ne serait-ce que la référence psaume 110, parce que c'est nécessaire pour ceux qui veulent montrer, par exemple aux Juifs, que Jésus, on en parle déjà dans l'Ancien Testament, et deuxièmement, qu'il est vraiment fils de Dieu, qu'il est Dieu. Voilà, ce psaume-là le montre d'une certaine manière et que sa prêtrise, son sacerdoce, est au-dessus du sacerdoce d'Aaron. Voilà, nous continuons avec le psaume 111.
Psaume 111. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de sa main sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais.
Amen. Le sujet de ce psaume 111, c'est la louange. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ce psaume nous exhorte à la louange, mais clôture en disant « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Ceux qui l'observent, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que si vraiment quelqu'un craint Dieu, il va louer Dieu. Que souvent, je le dis pour moi-même aussi, souvent, quand on baisse dans la crainte de Dieu, on va louer aussi moins de Seigneur. Nous sommes appelés à louer Dieu. Il est vrai que quand on est malade, il est vrai que quand on a des complications administratives, il est vrai que quand certains membres de famille nous embêtent, il est vrai que quand certaines personnes sont une occasion de chute pour nous, on a du mal à louer Dieu. On pense à régler soi-même nos problèmes. On pense à comment on va manger demain. On pense à comment on va régler ceci ou cela. À partir de ce moment-là, la louange est relégué peut-être à la huitième position de nos priorités. Et c'est ça le danger. S'il y a quelqu'un qui te dit, mais attention, la respiration vient de Dieu.
la respiration, le cerveau qui fait que tu commences à réfléchir, à cogiter sur ceci ou cela, ce cerveau-là t'a été donné par Dieu. Il doit avoir la priorité. Il faut louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Reconnaître que c'est lui qui t'a donné la respiration, qui t'a donné le cerveau. C'est lui qui te maintient en vie. Ne permets pas que les échecs, que les difficultés enlèvent la louange. Ça t'enlève la crainte de Dieu en même temps. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a plein de sujets de louer Dieu et tous ces sujets sont donnés là. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Mais il faut avoir une certaine crainte pour voir, pour observer l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'on est pris dans un orgueil d'insatisfaction par rapport à nos attentes, on ne peut pas voir. On croit que Dieu se trompe. On croit qu'il ne fait pas bien les choses. Mais lorsqu'on se calme, on se dit non. En tant que petit être humain, je ne peux pas être plus intelligent que le Créateur. Lorsqu'on se calme, on regarde nos propres faiblesses. On se dit non, attention, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et quand tu prends cette attitude, l'Esprit Saint commence à te montrer tout ce que Dieu fait de grand, tout ce qu'il fait de bon. Et plus tu reconnais cela, plus il t'en montre, plus tu commences à louer Dieu, plus il t'en montre. Et finalement, tu te sens délivré et ta vie devient rayonnante. La louange, c'est capital. C'est capital. Le manque de louange, c'est souvent la colère contre Dieu. Mais on prétend que c'est la colère contre les hommes. Non, en réalité, au fond, c'est la colère contre Dieu. Puisque quand on est en colère contre les hommes, finalement, on condamne Dieu d'avoir créé de tels hommes, quoi. Donc ça aboutira à la colère contre Dieu. Ne mettons pas les hommes en paravent. Ça ne marche pas. En réalité, il y a un problème direct entre nous et Dieu. C'est ça la réalité. Bien-aimés, c'est un sujet, en tout cas pour cette année, c'est le sujet de la louange. On doit revenir à la louange dans nos vies personnelles. Tout ce qui est obstacle, comme je dis, les déboires, les désagréments, les coups bas, tout ça, tout ce qui fait que finalement, en étant en colère, que ce soit en colère contre les humains, en colère contre ce qui nous arrive, mais tout ça fait qu'on ne loue pas Dieu comme il faut. Mais quand on considère même nos ennemis, quand on les considère comme des ouvriers de Dieu pour nous façonner, ça change tout. On loue Dieu. On loue Dieu. Il y a un frère aujourd'hui qui me raconte qu'ils avaient rendez-vous à la préfecture et que dans cette préfecture-là, quand vous arrivez avec 10 minutes de retard, ben on vous demande de reprendre un autre rendez-vous qui sera bien sûr après 4 mois ou 5 mois. Et eux, ils étaient en retard. Non seulement ils étaient en retard, non, ils étaient en retard, ils se sont dit « on y va quand même ». Et quand ils arrivent avec leur retard, le monsieur à la porte, au lieu de bien examiner, de bien regarder le papier de rendez-vous, il a mal regardé, il a dit « je ne retrouve pas votre nom ». Du coup, il les a mis à côté et il a reçu d'autres personnes. Et un chef à ce monsieur arrive et dit « mais monsieur, vous faites quoi à côté ?» Le frère dit « mais on avait rendez-vous, mais votre collègue dit qu'il ne voit pas notre nom ». Et quand le collègue dit, regarde, il dit, ah non, mais je m'étais trompé, il y a bien votre nom. Et du coup, dans une logique de faire un geste par rapport à la bévue du collègue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils leur ont trouvé rendez-vous 3 jours après. Or, s'il n'y avait pas eu ce mauvais traitement, ils étaient déjà en retard. On allait leur dire c'est annulé, c'est fini. Il faut prendre un autre rendez-vous pour plusieurs mois plus tard. Mais comme il y a eu cette erreur, du monsieur de l'accueil qui pouvait générer une grande colère parce qu'ils étaient déjà en retard et le monsieur de l'accueil les met encore à côté avant de voir, d'aller dans le bureau où il devait y aller. Là, quand ça arrive comme ça, tu te dis, déjà je suis en retard et ce monsieur prétend qu'il n'y a pas mon nom, mais tu peux te battre, tu peux te fâcher. Or, c'est Dieu qui avait fait exprès ainsi pour que le monsieur de l'accueil soit pris à défaut et que ça contribue à ce que le système leur arrange un rendez-vous rapide. Vous voyez, parce que si le monsieur de l'accueil n'avait pas fait ça, il les aurait fait passer et quand ils seraient arrivés au bureau, devant le bureau, on leur aurait dit, vous êtes en retard, c'est annulé. Mais Dieu a permis qu'ils fassent une erreur. Vous voyez que même les choses que nous, on peut considérer comme un coup de poing, c'est préparé par Dieu pour nous aider, pour nous amener plus près de lui, pour nous donner une victoire qu'on ne voit pas encore. C'est ça l'état dans lequel l'enfant de Dieu doit entrer. Un état où il considère même que les méchants sont des serviteurs de Dieu pour le former lui, pour le transformer lui. Quand tu atteins cet état-là, tu ne fais que louer Dieu pour tout. Tu loues Dieu pour tout. Pour tout. Et la gloire t'accompagne partout également. Les miracles vont se manifester parce que tu es à une autre dimension. Tu as une autre dimension. Dieu nous appelle à cette dimension-là. C'est pourquoi il insiste, louez, louez, craignez mon nom. C'est, au fait, il nous appelle à une dimension qu'on ne voit pas, que les humains n'atteignent pas. Et quand on atteint cette dimension-là dans la louange et dans la crainte du Seigneur, les choses du ciel peuvent couler du ciel à la terre, à travers toi. C'est très important, bien-aimé. Nous allons passer au finir au psaume 112, le psaume qui concerne les justes.
Psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent.
Amen, amen. Là, c'est un psaume qui nous dit « Sois juste et tu seras heureux. » Parce qu'on a tendance à avoir l'impression que c'est les méchants qui s'en sortent. Celui qui a fait des magouilles, celui qui a volé, celui qui a fait un peu de magie. On a toujours une fausse impression comme quoi c'est eux qui s'en sortent. Mais pourtant, même dans le monde, on dit le crime hein, ne paye pas. Mais, c'est pas ce que nous pensons voir. C'est-à-dire quand on voit des gens comme les Macron, voilà, on se dit, ah, mais comment se fait-il que l'injustice est en train de prospérer quand on voit des paroles comme le monsieur là, le ministre de l'économie qui dit qu'on va œuvrer à l'effondrement de l'économie russe. Mais vous voyez, un humain, quelle fatuité, quel orgueil, quelle arrogance. Et le juste est comme fatigué, se dit, mais à quoi ça sert d'être correct? À quoi ça sert d'être honnête? Si, ça sert. C'est ce que le psaume 112 nous donne tout ce que produit la justice. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, qui applique la Bible, qui aime son prochain, qui ne jalouse pas, qui ne vole pas, ben, il y a des conséquences. Sa postérité sera puissante sur la terre. Il y a des conséquences. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Il faut persévérer dans ça, bien-aimé. On nous dresse tout un tableau de bénéfices. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Amen. Le diable n'a pas de puissance contre lui. Oui, question ?
Oui, il y a une question Internet. Donc, tout à l'heure, quand tu as commenté le psaume 111, à la fin, tu as dit « Si tu atteins cette dimension, c'est que c'est bon. » Donc, l'internaute demande concrètement, on atteint cette dimension comment ?
On l'a dit en louant Dieu pour tout ce qu'il fait, en craignant son nom, en considérant que Dieu ne se trompe pas. Et on entre dans la louange, dans tout ce qui nous arrive, on loue Dieu pour cela. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à cette dimension-là. On bénit Dieu pour les méchants qui nous font du mal. On prie pour eux. Voilà. Quand on entre dans cette dimension-là, on est en haut. On est en haut et on voit le tout en haut. On est comme un aigle. Voilà. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu peut couler du ciel à travers nous sur tous les humains. C'est cette dimension que Jésus a, dans laquelle Jésus bénit. Hein, quand on le crucifie, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant qu'on est en train de lui faire du mal, lui dit, ils savent, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je discutais avec un chrétien qui me disait, moi, cette phrase-là, ça a du mal à passer parce qu'il savait quand même qu'il le frappait, quoi. Il savait quand même qu'il le crucifiait, quoi. Pourquoi lui dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ? Il y a des explications, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a des explications. Quand lui dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, bon, on peut dire sommairement que eux, ils sont comme dans une précipitation d'être libérés de Jésus, dont la sainteté et les paroles sont en train de les piquer. Ils veulent pas vraiment, comme si c'était des démons, tuer vraiment Jésus. Leur problème, c'est que ce monsieur-là nous embête. Il faut qu'on l'élimine. Voilà. Ils ne saisissent pas la dimension de tout ce qui se passe. Voilà. C'est pourquoi Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que je peux dire sommairement. Il y a autre chose. Mais c'est pour dire que cette dimension-là a fait que Jésus puisse être une bénédiction pour toute l'humanité. On veut sauver les âmes. On veut guérir les malades. On veut faire des miracles. C'est aussi une question de dimension personnelle dans la marche avec le Seigneur. Louer Dieu, glorifier Dieu, bénir les mauvais. Voilà, c'est marcher sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est ça. Ce que les autres prennent pour négatif, toi, tu prends sa peau positive parce que ça vient de Dieu. C'est cette dimension-là. Oui.
C'est la même que quand David disait « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré. »
Je suis délivré de mes ennemis. Amen. Voilà. Donc, oui, c'est cette voie-là où, au lieu de maudire les ennemis, de chercher quelle est l'arme que je dois utiliser pour battre. Mais toi, tu glorifies Dieu, tu dis, Seigneur, je sais que tu es ma protection, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête, je me confie en toi. Tu t'intéresses à Dieu à toute occasion au lieu de t'intéresser, d'être captivé par le mal que te font les autres. Voilà. Oui. Voilà, nous continuons. Donc on disait, il y a toutes ces conséquences pour le juste. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Hein, comme cet homme qui, au temps de l'URSS,
où le christianisme était interdit, on les a arrêtés. Cet homme était vraiment juste un vrai disciple de Jésus. Et le policier qui l'a arrêté lui a dit, bah, écoute, il lui a fait lire un passage. Marc, c'est le policier qui lui fait lire ça. Lis-moi ce passage-là. C'était Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans l'un des miracles, c'était, ils prendront de breuvages mortels et rien ne leur arrivera. Le policier lui fait lire ça. Et puis il dit, bah, tu vois ce chien-là, bah, tu vas voir ce qu'on va lui donner et ce que ça va lui arriver. On a donné une petite goutte du poison qui était dans un flacon au chien. Le chien a été foudroyé, pourtant il était costaud, mort. Et puis maintenant, le policier dit, mais puisque vous croyez en votre type là, qui a dit ce que vous venez de lire, donc tu dois boire ça et rester en vie. Et si tu restes en vie, alors moi aussi je croirai. Eh bien, le chrétien, dans sa justice, bien aimé, le verset 3. Et sa justice subsiste à jamais. La justice est vainqueur du mal. La vérité triomphe du mal. L'innocence triomphe du mal. Cet homme-là a pris, il a avalé tout le flacon. Ils ont attendu des minutes. Le monsieur était toujours vivant. Et c'est le policier qui s'est converti, qui est devenu aussi chrétien. C'est ça, bien-aimé, la justice. À un moment, ça va briller. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter. C'est ce qui est écrit là. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. À un moment donné, la lumière va se lever. Comme Mardoché, à un moment donné, le roi, il lit, mais qui m'avait sauvé d'un coup d'État? Mais on dit, mais c'est le... Ah, mais amenez-le, je vais le faire de lui le ministre, le premier ministre. Voilà. À un moment donné, un acte qui paraissait anodin, caché, à un moment donné, la lumière va briller dans cet acte-là de justice. Il faut toujours faire le bien, bien-aimé. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, parfois, toi, tu vas pardonner, la personne que tu as pardonné va encore te faire du mal. Et les amis vont dire, tu vois, tu as pardonné, regarde, c'est que quelles sont les conséquences. Ce n'est pas grave. Continuons toujours à être justes. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Vainqueur du mal par le bien. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ça, c'est un passage à mémoriser. Psaume 112, 7. Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Parce qu'il sait que Dieu l'accompagne. Oui.
Oui, il y a des questions Internet. On sait que Melchisédek, c'est le Christ. Mais pour quelle raison est-il roi de Salem?
Roi de Salem veut dire roi de paix. Salem, c'est la paix. Donc Jésus est le prince de paix. Et Melchisédek veut dire roi de justice. Il est aussi le roi de justice. Il a les deux à la fois. Jérusalem, c'est cité de paix. Salem à la fin.
Quelle est la différence entre fils de l'homme et fils de Dieu? Est-ce que c'est le fils de l'homme qui ne sait pas le jour de l'avènement ou le fils de Dieu?
je pense que c'est le fils de l'homme qui ne sait pas, mais je pense que c'est en même temps le fils de Dieu. Parce que fils de l'homme, ce n'est pas pour le réduire. Fils de l'homme, c'est pour l'inclure à notre race, le fusionner à notre race. En fait, c'est la même personne qui est fils de Dieu, qui est fils de l'homme. Mais c'est des titres qu'il a. Le titre de fils de l'homme, c'est pour marquer son unité avec la race humaine. C'est pour dire, il est de la race humaine. Le Saint-Esprit n'est pas de la race humaine. Un ange n'est pas de la race humaine. Le Père n'est pas de la race humaine. Mais le Fils de Dieu
est fils de l'homme. Il est de la race humaine en même temps. C'est pour marquer cela. Mais c'est la même personne qui est aussi fils de Dieu. Il est d'origine divine. Je pense que dans son humilité, il a refusé de connaître la date du retour, le moment exact du retour. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il en est ignorant. Voilà. C'est tout ? Ok. Voilà. Et son cœur, et j'aime beaucoup le verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Et ça va conduire le juste à faire des largesses. Vous savez, quand quelqu'un est bien, il fait du bien. Voilà. Quand on fait le mal, souvent parce que nous-mêmes, on n'est plus bien. Quand quelqu'un est heureux, il est bien, il fait du bien, il pardonne. C'est comme si quelqu'un était millionnaire, tu lui prends une paire de baskets. Oh, je vais acheter une autre. Voilà. Mais c'est quand quelqu'un lui-même est insécurisé, il n'est pas bien. Dès que tu lui ravis quelque chose, ça pique. Dès que tu le perturbes, ça pique parce qu'il n'a pas la paix de Dieu, il n'est pas dans la justice divine. Le juste est dans la paix de Dieu et dans l'assurance de Dieu, de sorte que maintenant il fait des largesses aux autres. Il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Voilà, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Le seul moyen de vaincre les méchants ou d'avoir un impact sur leur vie, c'est de demeurer juste, de demeurer dans la vérité, dans la paix, dans la joie. C'est ça qui va les irriter, c'est ça qui va les secouer. Mais quand tu penses rendre coup pour coup, oh, au contraire, tu les fortifies, ils se disent, ah, mais nous sommes tous méchants, eh bien, on continue à se battre. Mais quand tu restes juste, tu restes dans la paix, ils ne sont pas bien. Vous connaissez mon exemple que je cite souvent de ce commando russe qui a frappé Natacha lors d'une séance de prière. Il l'a frappé copieusement. Il s'est dit, c'est fini, cette fille-là ne viendra plus prier. Eh bien, quand ils ont fait une descente dans une autre maison pour taper les chrétiens, moi, quand on dit frapper, il ne s'agissait pas de gifles, c'était des commandos. Leur but, c'était de te laisser. À chaque chrétien qu'ils frappaient, il fallait le laisser avec un défaut, casser un bras, voilà, briser un œil. Il fallait faire quelque chose de mal, sérieusement. Et maintenant, ils arrivent dans une deuxième maison. Ils retrouvent encore Natacha là. Mais il se dit, mais... Il la frappe sérieusement. Et troisième maison, il retrouve encore Natacha. Alors cette fois-ci, il sort. Il frappe et il sort. Et commence à réfléchir, qu'est-ce qui anime cette fille-là pour venir prier comme ça, alors qu'on la tape à chaque fois. Le juste est puissant, même si il est appelé à faire montre de faiblesse personnelle. Mais cette faiblesse personnelle, dans le sens où il ne va pas répondre arrogamment aux accusations, aux attaques, ça paraît qu'il est faible. Mais cette faiblesse-là est en réalité une très grande force qui va se révéler plus tard. Alors il faut persévérer dans ça. Le juste n'a pas à craindre de mauvaises nouvelles, pour la simple raison qu'étant juste, son sort est entre les mains de Dieu. Du coup, toute mauvaise nouvelle est comme de l'eau sur les plumes du canard. Ça glisse. Dieu va transformer ça en bonne nouvelle. Son sort est entre les mains de Dieu. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Question.
En fait, pendant que tu lisais le psaume, il ressemble quand même un peu beaucoup au psaume 1, non ? Je sais pas si... Moi, il me rappelle un peu le psaume numéro 1.
Oui, oui, ça nous rappelle le psaume 1. Heureux l'homme qui ne se met pas avec les méchants, mais qui médite la loi, la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Et puis, ça, oui, ça ressemble un peu au premier psaume. Mais il y a certains détails comme le verset 7 qui ne sont pas dans le psaume 1. Mais ce sont des psaumes qui nous appellent à regarder à Dieu plutôt qu'à regarder à ce que les méchants nous font. Regarder à Dieu, lui faire confiance et on verra sa justice se manifester clairement. On ne doit pas se laisser emporter par les mauvaises nouvelles. On doit faire confiance en Dieu. Alléluia, Papa, nous te louons, nous te glorifions. Nous te demandons pardon pour tout la baisse de la louange dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons chaque jour élever ton nom, chaque jour glorifier ton nom, chaque jour manifester que nous te craignons, nous considérons que tu ne te trompes pas, que tu nous fais du bien. La vérité, Seigneur, c'est de te louer. La vérité, Seigneur, c'est de t'adorer. C'est pourquoi il est écrit, tu cherches le véritable adorateur qui vont t'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est dire merci chaque jour. Chaque jour, sois béni, sois exalté. Nous proclamons ta supériorité sur les mauvaises nouvelles. Nous proclamons ta supériorité sur les Illuminati, sur le nouvel ordre mondial. Nous proclamons ta grandeur et ta gloire. Nous proclamons ta victoire sur les forces des ténèbres en France au nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire sur les forces des ténèbres lancées contre nous individuellement au nom de Jésus. Amen.